L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Donc, je vous invite à aller avec moi dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 et verset 23. Et avant ça, j'aimerais lire un verset pour les célibataires qui se trouve dans 1 Corinthiens 7, 33. La Bible dit « Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et c'est elle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Donc lorsqu'on parle de couple, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont célibataires et qui peuvent se trouver un peu en dehors de ce sujet. Mais quand on parle d'honorer son conjoint, bien sûr, on parle aussi d'honorer Dieu. Donc il y a bien des principes que nous allons partager ce matin qui sont aussi que vous pouvez appliquer en fait dans votre vie spirituelle et même par rapport à votre rapport avec d'autres personnes. Dans Genèse au chapitre 2 au verset 23, il écrit « Adam a dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors le premier point que je voudrais partager avec vous par rapport à comment honorer son conjoint, c'est premièrement en reconnaissant quelle est sa valeur. Pour honorer quelqu'un, nous avons besoin de connaître quelle est la valeur de cette personne ou quelle est la valeur de cette chose. Et lorsque Ève a été créée, Adam a dit, voilà, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. En fait, littéralement, on l'appellera femelle. Ou encore, on l'appellera la personne qui est de la même race que moi, mais d'un autre sexe. Donc, c'est comme ça que Adam avait défini Ève au départ. Au départ, Ève n'avait pas de nom. Ève était simplement la femelle de l'homme. Et c'est comme ça que Adam vivait heureux. Il était heureux, effectivement, d'avoir une personne de la même race que lui, avec qui il pouvait communiquer, puisque c'était un besoin. Mais Adam ne connaissait pas, ne savait pas ce que c'était le mariage. Adam n'a jamais su ce que c'était une robe de mariée. Adam ne savait pas ce que c'était d'inviter des amis à la maison, etc. Adam ne connaissait pas tout ça, puisque Adam était la première personne qui allait donner le premier couple. Donc Adam ne connaissait pas tout ça, et il a dû construire et apprendre comment avoir une relation avec son épouse. Et pour le moment, donc, Ève était pour lui une sans nom. La femme que Dieu lui avait donnée pour être avec lui. Lorsqu'ils ont chuté, Dieu va dire à l'homme, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Et là, Adam va dire, « Mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi. » Et c'est comme ça que Adam définissait cette femme, cette femelle, comme c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Donc, pour Adam, Ève était une femme que Dieu avait mise auprès de lui. Mais ce n'était pas grand-chose de plus pour le moment. Elle n'était pas définie. Il ne pouvait pas définir sa nature. Il ne lui avait pas donné de nom. C'était une no-name. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai eu la surprise de voir dans certains magasins qui ne sont pas connus pour être des magasins de nourriture où on trouve d'excellents mets et d'excellentes nourritures, une marque qui s'appelle No Name. Et en général, quand vous voulez vraiment honorer quelqu'un, vous n'allez pas lui servir du No Name, puisque c'est une marque sans nom. Et pour le moment, Ève, pour lui, c'était une No Name, quelqu'un qui n'avait pas de nom. Et si vous ne pouvez pas définir quelque chose, vous ne pourrez pas connaître sa valeur. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître la valeur d'une personne, vous ne saurez pas comment l'honorer. Et Ève, pour le moment, elle n'avait pas de définition, elle était sans nom. C'était quelqu'un pour l'accompagner, mais il ne lui avait pas encore donné de prénom. Et un nom, c'est important. Donc si nous ne savons pas bien définir une chose, nous ne saurons pas quelle est la valeur de cette chose. Il y a un journal ici au Québec, je crois que ça s'appelle La Presse, je crois que c'est québécois, et au début de l'année, il racontait une histoire d'un ferrailleur américain. Et cet homme, il a acheté sur un marché aux puces une petite horloge de 8 cm qui était tout en or. Cet homme connaissait la valeur de l'or. Et il avait acheté cette horloge pour pouvoir la vendre à l'or. Il s'est dit, je vais me faire un certain bénéfice. Donc, il reconnaissait la valeur de cette chose, de cette petite horloge qui avait en fait une forme d'œuf en or. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était le prix de cette chose. Et il a essayé de la vendre et personne ne voulait de ce bijou. Personne n'était intéressé. Finalement, il était découragé. Et un jour, en lisant un magazine, il a vu la même horloge qu'il venait d'acheter dans un magazine de choses de collection. Et il s'est aperçu que cette chose avait une valeur de 36 millions de dollars. Lui, il l'avait acheté 14 000 dollars. Donc il savait que ça avait de la valeur, mais il ne connaissait pas quelle était la valeur réelle de cette chose. Et bien sûr, il a été heureux. En Suisse, il y a une femme qui a acheté un tableau. Elle a acheté l'équivalent de 7 dollars, 5 euros. Et elle le trouvait beau. Bon, je l'ai regardé, il n'avait pas l'air magnifique pour moi. Il n'avait pas trop de valeur, je ne l'aurais certainement pas acheté. Mais en fait, elle s'est aperçue que c'était un Renoir qui valait 100 000 dollars. Donc, il y a des choses dans notre vie et aussi des gens. Et aussi peut-être le conjoint que Dieu a placé à côté de nous, la femme, le mari, l'époux, l'épouse que Dieu a placée à côté de nous. Nous savons qu'elle a une valeur, nous savons qu'il a une valeur, mais certainement, nous ne savons pas la valeur réelle de cette personne. Et nous ne connaissons pas la valeur réelle que Dieu a placée en lui ou en elle. Je ne sais pas si vous connaissez les truffes. Les truffes, ce sont ces champignons de grande valeur. Il y a une truffe qui a été vendue de 750 grammes, qui a été vendue 140 000 dollars, 100 000 euros. Un petit champignon. Si on vous l'avait servi à l'Arche d'Or, c'est vraiment un très bon nom, aux Arches d'Or. La première fois, je n'ai pas compris. Après, j'ai compris, c'est un M comme ça, jaune, un restaurant. Et imaginez, vous allez comme ça, là, je vais le dire le nom, au McDo. Et là, vous commandez votre trio Big Mac. Et on vous sert ça à l'intérieur, dans votre Big Mac. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller voir les gens au comptoir et vous allez leur dire, mais qu'est-ce que vous m'avez donné à manger, là? Et vous allez vous fâcher, sans réaliser que ce que vous avez à l'intérieur, ça coûte plus de 100 000 dollars. Parce que, d'apparence, ce n'était pas ce que vous aviez commandé, vous ne pouvez pas imaginer la valeur que ça a. Et si nous regardons à l'extérieur, il y a des choses, vous savez, ou même parfois des gens qui regardent les autres, ils disent, mais finalement, c'est quoi ce truc-là? Et il y a certains maris ou certaines femmes, au bout de certaines années, ils se posent la question, mais pourquoi j'ai marié ça? Et il y a des gens qui commencent à penser comme ça, sans réaliser la valeur de cette personne. Donc vous pouvez regarder quelque chose en étant un peu dégoûté, entre guillemets, en vous demandant, mais c'est quoi ce truc? Sans savoir qu'elle a une valeur immense. On aurait pu vous présenter, vous donner des truffes comme ça, et vous ne savez pas quelle est cette valeur. Et pourtant, ça pourrait payer votre maison comme ça. Un petit champignon. Donc, quand je reconnais la valeur de quelque chose, je vais aussi savoir la définir. Je saurai la caractériser. Je pourrai en parler positivement. Si je reconnais la valeur d'une personne, je peux en parler. Je suis passionné. On peut me poser des questions et je peux en parler. Et même naturellement, j'en parlerai. Parce que j'aime cette personne. Ou encore, j'aime cette chose. Les gens passionnés, ils aiment les choses et ils en parlent même sans que vous leur demandiez. Deuxième chose, c'est en acceptant quelle est sa valeur. Donc on doit reconnaître quelle est la valeur de notre époux, de notre épouse, mais on doit aussi accepter quelle est sa valeur. Dans Matthieu, au chapitre 13 et au verset 44, il écrit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle d'un grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Nous pouvons reconnaître la valeur de quelque chose ou voir le prix sur quelque chose, mais sans accepter que cette chose a cette valeur. On peut reconnaître la valeur du sacrifice de Jésus-Christ et beaucoup de gens dans le monde à qui je parle, ils reconnaissent que Jésus est venu pour eux, mais ils n'acceptent pas la valeur du sacrifice de Jésus. La Bible nous parle ici de deux personnes. Le premier, dans un champ, a trouvé un trésor. Et il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Est-ce que cet homme était intéressé par ce champ ? Non, cet homme était intéressé par le trésor qui contenait ce champ. Paul dira que nous vieillissons et notre corps vieillit de jour en jour, je paraphrase. Notre corps se détruit petit à petit. Et certaines personnes, certains couples, certains maris ou certaines femmes, au bout d'un moment, lorsqu'elles regardent leur conjoint, leur femme, leur époux, ben, elles sont déçues, ou ils sont déçus. Mais si vous regardez à l'apparence du champ, vous pouvez être déçu, effectivement. Par contre, si vous regardez au trésor qu'il contient, vous allez continuer à écarter tout ce qui est dans votre vie pour vous occuper de ce champ. La deuxième personne a trouvé une perle. C'est un homme qui cherchait des perles. Peut-être il les collectionnait. Mon père, c'était un grand collectionneur. Je me rappelle, on allait en Suisse et il collectionnait les cartes de téléphone. Alors on allait dans les cabines, une après une, et on cherchait des cartes de téléphone. Pourquoi ? Parce que ça avait une certaine valeur pour lui. Pour d'autres personnes, ça n'a aucune valeur, mais pour lui, ça en avait. Je collectionnais des petits, il y a des pots de lait en Suisse avec des petits paysages dessus, et j'étais enfant, et je collectionnais ça, mais pour d'autres personnes, ça n'avait aucune valeur, il les jetait à la poubelle. Cet homme ici, il cherchait des perles, et quand il a trouvé cette perle de grand prix, il était allé vendre tout ce qu'il avait. Quand nous rencontrons Jésus-Christ, Jésus s'attend à ce que nous puissions tout vendre pour cette perle de grand prix. Jésus est la perle de grand prix. Et c'est au-delà du couple, au-delà de notre vie personnelle, au-delà de tout ce que nous avons, la personne que nous devons honorer. Quand tu trouves Jésus-Christ, et quand tu as trouvé Jésus-Christ, tu es censé vivre pour Jésus et t'attacher à cette perle de grand prix. Qu'est-ce qui fait ta joie ? Qu'est-ce qui fait ton bonheur ? Qu'est-ce qui fait la joie de ton couple, la joie de ta vie ? Jésus est la perle de grand prix. Jésus-Christ. Et pour beaucoup, Jésus est simplement un homme qui est passé. Pour d'autres, il est un prophète. Parce que les gens ne définissent pas réellement, ne savent pas réellement la richesse qui se trouve en lui. Si le monde voyait réellement la richesse qui se trouve en lui, les églises seraient pleines à craquer. Parce que les gens chercheraient à le connaître. Lorsque nous nous approchons de Jésus, nous reconnaissons quelle est sa valeur. La Bible dit que lorsqu'on s'approche de lui, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on s'approche de Jésus, plus on s'approche de lui et plus on réalise que toutes les choses autour n'ont pas de valeur. Comme le pasteur Joël disait tout à l'heure, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il a envie de quoi ? D'être au ciel avec Jésus. Quand tu connais intimement Jésus, quand tu passes du temps avec lui de qualité, pas de la religion, mais une communion sincère avec lui, intime, et que tu es là dans les profondeurs de sa présence, tu n'as plus envie que d'une seule chose, c'est demeurer. Demeurer dans sa présence. Parce que tout passera. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris lorsqu'il a connu Jésus-Christ. Cet homme éduqué, cet homme respecté, cet homme béni financièrement, cet homme béni intellectuellement. Lorsqu'il a connu Jésus-Christ, il a dit, je regarde toutes les autres choses comme de la boue. Parce qu'il avait rencontré quelqu'un qui avait une grande valeur, Jésus-Christ, fils de Dieu. Si ta femme ou ton mari, tu ne sais pas définir sa richesse, si tu ne sais pas reconnaître sa richesse, si tu ne sais pas accepter sa richesse, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas la mépriser au lieu de l'honorer. Et quelque chose qui combat pour nous, c'est le temps. Le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances nous empêchent de voir la personne qui est à côté de nous réellement et d'accepter sa valeur. Nous aurons du mal à reconnaître la valeur de quelqu'un si nous ne savons pas l'apprécier. Certaines personnes peuvent reconnaître le prix de certains aliments. Il y a des aliments qui coûtent cher. Je me souviens, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. En passant par là, j'ai vu un restaurant qui était là dans le hall, dans un couloir simplement. Tout le monde est pressé. Et vous pouvez manger ça, manger là sur le pouce, sur une chaise de bar un peu rapidement. Et en passant par là, il était un peu différent ce petit bar-là, entre guillemets, restaurant. J'ai vu qu'il servait du caviar, des huîtres, etc. Et vous pouviez vous faire une petite assiette en passant rapidement à plus de 1 500 $. Une assiette de caviar. Vous pouvez reconnaître le prix sans accepter le prix. Vous pouvez voir que ça a un prix, oui, mais sans accepter le prix pour vous-même. Vous pouvez reconnaître que, oui, effectivement, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné un époux, et oui, ça a un prix, mais sans reconnaître réellement, sans accepter réellement qu'elle a ce prix. La troisième chose importante, c'est en acceptant aussi quelle est notre valeur. Donc, on doit reconnaître la valeur de l'autre, on doit accepter la valeur de l'autre, mais on doit aussi accepter quelle est notre valeur. Si je ne m'aime pas moi-même, je ne pourrai pas aimer les autres. Ce sera difficile de pouvoir vraiment aimer les gens. Vous savez qui trouve les truffes, ces champignons dont on a parlé? Ce sont des cochons. Spécialement pour Pasteur Joël, cet exemple. Qui aime tellement le cochon. Et ce sont des cochons qui trouvent des champignons d'une si grande valeur. Et il y a aussi un autre type qui trouve ces champignons. Ce sont des mouches d'une certaine espèce. Et vraiment, il y a juste cette espèce-là. Et qu'est-ce que font ces mouches? C'est qu'elles viennent mettre leurs œufs dans ces champignons. Et après, vous mangez ça, c'est tellement bon. Et vous savez où vont les mouches et de quoi elles se nourrissent. Alors, qui a de la valeur? Est-ce que c'est la truffe ou est-ce que c'est le cochon qui l'a trouvé? Le cochon a plus de valeur que ce qu'il a trouvé. Et on doit reconnaître quelle est notre valeur. S'il n'y avait pas l'huître, il n'y aurait pas la perle. Il y a un homme comme ça au restaurant, il a commandé des huîtres et il a trouvé 5 perles. Une valeur de plus de 2000 euros, c'est 2600 dollars. 2800 dollars. Comme ça, dans son assiette. Si vous ne savez pas reconnaître la valeur de quelque chose, si vous ne savez pas la saisir, et si vous ne savez pas aussi reconnaître quelle est votre valeur, vous allez vivre... Vous savez, il y a des gens qui étaient esclaves. Et vous connaissez cette histoire, quand on les a libérés, ils avaient encore cette mentalité d'esclaves, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient moins bien que les autres. Et ça s'est attaché à beaucoup de nations, à beaucoup de gens, à beaucoup de peuples, de penser qu'ils sont moins bien que les autres, parce que ça a été leur identité, c'est comme ça qu'on les a nommés. Si tu ne reconnais pas ta valeur, tu ne pourras pas manifester Christ en toi. Si tu reconnais ta valeur, tu pourras manifester Christ en toi. Donc tu as besoin d'accepter quelle est ta valeur. Il y a des célibataires comme ça, ils ne trouvent pas la personne parce que certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, c'est parce qu'ils n'acceptent pas quelle est leur propre valeur. Alors ils ne prennent pas soin d'eux, ils ne font pas attention à eux, ils parlent n'importe comment, ils regardent n'importe quoi, ils ne s'habituent pas à avoir quelqu'un proche d'eux, ils ne se préparent pas à ça. La Bible nous dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Comment on se prépare à la rencontre de Dieu? En se sanctifiant, en se préparant. Pour que lorsqu'il nous voit, on n'ait pas à rougir, on n'ait pas à avoir honte, on n'ait pas à se cacher comme Adam s'est caché. Parce qu'on connaît lui, on connaît Jésus. On marche avec lui. Une quatrième chose, c'est en lui révélant quelle est sa valeur. Comment honorer l'autre? J'ai reconnu sa valeur, j'ai accepté sa valeur, j'accepte que moi aussi, oui, j'ai de la valeur. Ensemble, nous avons de la valeur. Mais aussi, je dois lui révéler quelle est sa valeur. Ça, c'est une chose tellement importante que Dieu m'a montré. Si je suis un homme, si je suis marié, je dois révéler la valeur de ma femme à ma femme. Et ça marche aussi pour les relations en général. Dieu nous a appelés, établis, pour que nous puissions montrer aux hommes qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque je reconnais que j'accepte la valeur de mon conjoint, mon rôle va donc être de communiquer cette connaissance de sa valeur. Dans Genèse au chapitre 3 et au verset 20, la Bible dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » C'est étonnant, mais juste après qu'ils aient chuté et que Dieu ait établi un certain nombre de jugements contre eux, qu'est-ce que va faire Adam? Automatiquement, il va donner un nom à Ève. Qu'est-ce que va faire Dieu? Automatiquement, il va les revêtir d'habits. Dieu a revêtu Adam et Ève d'habits et Adam a revêtu Ève d'un nom. Ève s'est retrouvée revêtue d'un nom. La Bible dit « Je te connais par ton nom ». Dieu dit « Je te connais par ton nom ». Et nous savons que nos empreintes sont uniques. Dieu nous connaît par notre nom. Donc, qu'est-ce que va faire Adam? Adam va donner un nom à Ève. Il est dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Qu'est-ce que veut dire Ève? Ça veut dire « vie » ou encore « vivant ». Qu'est-ce que ça veut dire en fait littéralement? Celle qui donne la vie. Pour Adam, Ève était simplement jusqu'ici la femme qu'il avait mise, que Dieu avait mise auprès de lui. Mais à un moment, il a réalisé qu'à cause de sa condition, il avait besoin de définir. Et parce que simplement, il grandissait dans sa relation avec elle, ils allaient être éloignés de Dieu. J'ai plutôt intérêt de définir la personne qui se trouve avec moi et de l'honorer, et de commencer à l'honorer. Il a dit, tu t'appelleras Ève, la mère de tous les vivants, celle qui porte la vie. Quand Ève a trouvé son identité, la Bible dit qu'ils ont été écartés du jardin et la première chose qu'ils ont fait, en tout cas, qui nous est dit dans la parole, la Bible dit qu'Caïn connut sa femme. Quand Ève a eu une définition, quand on l'a caractérisée, quand Adam a dit « tu es celle qui donne la vie est sortie d'Ève. Quand Adam a dit à Ève, par son nom, « tu portes la vie en toi », qu'est-ce qui s'est passé? La vie est sortie d'elle. Si tu reconnais la valeur d'une personne, si tu reconnais la valeur de la personne que Dieu a mise à tes côtés, cette valeur va commencer à se manifester. Si tu méprises cette valeur sera éteinte, enfermée, comme le Saint-Esprit dans la vie de beaucoup de gens, enfermée, parce qu'il est méprisé. Donc Adam lui a donné un nom nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom de Ève, il porte quelque chose de plus que encore celle qui donne la vie. Le nom de Ève, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est Shava. Ça ne se prononce pas comme ça, mais ça se dit Shava. Ça s'écrit C-H-A-V-V-A-H. Et ce mot vient de Shava, qui s'écrit de la même façon, mais il y a un V en moins. Et qu'est-ce que veut dire ce mot Shava? Ça veut dire déclarer, révéler. Et en fait, c'est utilisé dans l'Ancien Testament 19 fois. Par exemple, lorsque Nebuchadnezzar voulait savoir quel était le rêve qu'il avait fait et quelle était son explication. Lorsque les amis de Job sont venus avec leur grande révélation et qui voulaient révéler à Job leur grande révélation, c'est ce mot qui est utilisé, de révélation, Shava. Dans Psaume 19, 2, il est écrit « Le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit ». Ici, donner connaissance, c'est le mot Shava, qui parle de révélation. En fait, ça comporte vraiment le sens de la nuit qui apporte une révélation avec elle pour celui qui vient après. Donc, quand il a appelé Ève, il a appelé cette femme d'un nom qui voulait dire que en toi, Ève, il y a des révélations. En toi, il y a des trésors. En toi, il y a quelque chose, un trésor. En fait, qu'est-ce qu'il lui disait ? Maintenant, Ève, tu as une grande valeur. Ève, tu as quelque chose à l'intérieur de toi, tu portes en toi quelque chose. Et effectivement, Ève portait en elle Israël. La Bible dit qu'ils se sont connus, il y a eu Caïn et Abel. Le méchant a tué le bon et le bon a été remplacé par un troisième homme qui s'appelait Seth. Et la Bible dit que Seth a eu des enfants. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à invoquer Dieu. D'où le peuple d'Israël est sorti ? De Ève. Et d'où ce qu'il est sorti à l'origine ? De la bouche d'Adam. Si Adam n'avait pas parlé, certainement Ève n'aurait pas enfanté la promesse. Si tu ne parles pas sur ta femme, si tu ne parles pas sur ton mari, n'espère pas revoir un trésor en elle ou en lui. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous sans faire de reproche, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Si tu doutes, si tu parles constamment négativement contre la personne que Dieu a mise à tes côtés, n'imagine même pas voir de nouveaux trésors. N'imagine pas découvrir de nouvelles surprises. N'imagine pas voir quelque chose de nouveau en cette personne parce que tu es en train de la mépriser complètement. Donc, nous devons vraiment révéler la valeur de la personne qui se trouve à côté de nous. Parce que peut-être cette personne ne sait pas quelle est cette valeur. Peut-être on ne lui a pas appris quelle était sa valeur. Et il y a Abraham aussi. Abraham a compris aussi cette leçon. Dieu lui a fait une promesse dans Genèse au chapitre 13 et au verset 16. Dieu lui a dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. » Donc Dieu lui fait une promesse d'une descendance nombreuse. Mais la Bible dit aussi dans Genèse 16, 11, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar, Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Sarai avait une mauvaise perception de Dieu. Elle avait une mauvaise perception d'elle-même. Et Abraham et Sarai avaient une mauvaise compréhension de la façon dont Dieu allait accomplir sa promesse. Dieu dit donc à Abraham, « Tu auras une descendance nombreuse. Ce sera au travers de toi. » Mais pour Abraham, ça devait être au travers d'Éliézer. Donc, Abraham n'avait pas compris la parole de Dieu. Abraham ne comprenait pas que le plan de Dieu pour sa vie, en fait, était rattaché à la vie de Sarai, sa femme. Et même plus que cela, il ne comprenait pas que c'était Sarai elle-même qui portait sa promesse. Dieu parle à qui ? Dieu parle à Abraham. Mais où se trouve le trésor ? Dans Sarai. Si Sarai n'était pas là, il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de promesse. Dieu parle à Abraham, mais la promesse se trouve dans sa femme. Et Sarai et sa femme ont essayé par tous les moyens de réaliser cette promesse en dehors de leur propre couple, et ça ne fonctionne pas. Dieu n'est pas intéressé à ce que ce soit Éliézer, et Dieu n'est pas intéressé à ce que ce soit Ismaël. Dans Genèse au chapitre 17 au verset 15, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. » Dieu commençait à transformer la mentalité d'Abraham parce que Dieu savait que s'il ne changeait pas sa façon de penser, il passerait à côté de la promesse. Dieu avait précédemment changé même son nom, Abraham, à Abraham, père d'une multitude, en lui faisant contempler les étoiles du ciel. Donc Dieu a changé la mentalité d'Abraham sur sa propre vie, accepter sa valeur, avant d'accepter même la valeur des autres. Et Dieu va lui ordonner de changer le nom de son épouse. « Je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations. » Une femme qui devient des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit. Il n'y a pas que Sarah qui rit. Et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu n'était pas intéressé par Ismaël, dans le sens d'accomplir sa promesse. Donc non seulement Abraham voulait un autre héritier, Éliézer, ou encore Ismaël, quelqu'un qui n'était pas sorti. Écoutez, Ismaël était sorti de lui, oui ou non ? Mais Ismaël n'était pas sorti de sa femme. Abraham avait reçu pour lui-même sa promesse. Donc ils se sont concertés, ils se sont dit, bon, finalement, tu as reçu la promesse, ça doit sortir de toi. Mais Dieu n'était pas intéressé à ce que ça sorte juste d'Abraham, mais à ce que ça sorte de Sarai, d'Abraham et de Sarah. Tu ne pourras jamais accomplir ta destinée sans celle ou celui que Dieu a placé à tes côtés. Ce serait faux de penser comme ça. Et le monde nous a amenés à penser comme ça, mais c'est complètement faux. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas divin. Et Dieu donc change le nom de Sarah. Il l'a fait passer du nom de princesse, parce que c'est ce que ça voulait dire, à princesse souveraine, ou encore princesse élevée, ou encore femme noble. Dieu a commencé à montrer à Abraham quoi ? Il lui a dit, mais finalement, la personne que j'ai mise à tes côtés, ce n'est pas simplement une princesse. Ou encore, ce n'est pas simplement une femme que tu peux dire c'est ta sœur, comme il avait fait en Égypte. En Égypte, il a dit, oh, c'est ma sœur. Plus tard, il a dit, bon, c'est une femme de second rang, je vais vers Agar. Il l'a traitée mal. Il n'a peut-être pas été éduqué pour ça. Mais Dieu lui dit, non, ce n'est pas ni ta sœur, ni une femme de second rang, c'est une princesse souveraine, c'est une princesse élevée. Et au travers d'elle, j'accomplirai ma promesse. Dieu, qu'est-ce qu'il était en train de lui dire finalement ? Change ta vision de ta femme. Je ne pourrai pas me manifester dans ta vie si tu ne changes pas la vision de ta femme parce que tu marcheras avec ta femme. Agar pourra partir, Ismaël pourra partir, mais tu resteras avec elle. Change la vision de ta femme. Ce n'est pas un second choix, mais c'est le premier choix. Abraham, lorsqu'il a reçu sa promesse, il avait 75 ans. C'est à 99 ans, 24 ans plus tard, qu'il a commencé à comprendre que sa promesse ne pouvait pas se passer sans sa femme. 24 ans. Il y a des leçons qu'on apprend très tard et trop tard. Les gens disent, ah, si j'avais su, elle est à côté de toi, il est à côté de toi. alors occupe-toi-en. Honore-la, honore-le. Dieu dit, je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Qu'est-ce que Dieu lui disait finalement? Ta femme est une reine. Et si Abraham avait compris quelle était la valeur de sa femme, il ne l'aurait jamais considérée comme il l'avait fait précédemment. Abraham pensait peut-être qu'il s'agissait de sa promesse, mais c'est Sarai qui portait sa promesse. Donc une chose qu'on doit faire, c'est révéler, au travers d'un nom ici, la valeur de notre conjoint à notre femme, à notre mari. Et ça se fait aussi en insufflant ou en communiquant sa valeur. Comment? Oralement. La Bible dit, Éphésiens 5, je lis pour vous, Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Le mari a un rôle primordial de communiquer à sa femme quelle est sa valeur. En fait, il doit insuffler à sa femme, la façon dont le Saint-Esprit la voit. Je me souviens, il y a à peu près 7 ans, j'étais là sur mon canapé, dans ma maison, et Dieu m'a montré une image simplement, et j'ai vu ma femme en train de prêcher et de s'agiter. Elle ne prêchait pas, mais Dieu m'a montré ça, et j'ai insufflé ça dans ma femme. Dieu te montrera, si tu as un cœur ouvert, les dons que Dieu a mis en elle ou en lui. Si seulement tu as des yeux pour voir, Dieu te montrera, Dieu te révélera, et tu devras insuffler en elle. Quel est son don? Quelle est sa promesse? Qu'est-ce que Dieu veut pour elle? C'est pas que la femme ne peut pas savoir pour elle-même ce à quoi elle est appelée, mais tu vas l'aider simplement à s'élever. C'est ce que l'homme est appelé à faire au travers de sa femme. Il doit lui communiquer quelle est sa valeur et l'encourager à la mettre en action. Et si Adam avait su communiquer à Ève quelle était sa valeur, certainement elle ne serait peut-être pas déjà faite séduire, elle n'aurait pas été à la recherche de nouveaux plaisirs. La Bible dit que c'était agréable à voir, etc. C'était bon à donner du discernement. Mais si Ève avait compris, si Adam lui avait dit « Mais finalement, tu sais, tu pourras chercher tout ce que tu veux, mais le trésor se trouve en toi », elle n'aurait peut-être pas été à la recherche d'autres plaisirs. Si elle avait compris que finalement, quoi que ce soit que je goûte dans ce monde, ça n'a pas la valeur que Dieu a mise en moi. Ça aurait pu être différent. Cinquième chose, en lui exprimant quelle est sa valeur. On a parlé de révéler, je suis obligé d'aller vite aussi. En lui révélant quelle est sa valeur, mais aussi en lui exprimant. C'est pas pareil. On peut lui révéler avec des paroles, avec des mots, mais on exprime avec des attitudes, avec des actions ou encore physiquement. Donc, s'il faut révéler et communiquer la valeur à son conjoint, il faut aussi lui l'exprimer physiquement et par notre attitude. Il y a des pères comme ça, ils passent leur temps dans leur garage et ils s'occupent de leur voiture. Et qu'est-ce que ça crée chez leurs enfants? Ça crée chez leurs enfants... Mon père aime plus sa voiture que moi. Ils passent leur temps au travail, ils ne sortent jamais avec eux. Et qu'est-ce que ça crée en eux? Mon papa, ma maman aiment plus son travail que moi. Et ça crée toutes sortes de problèmes et des pensées suicidaires parfois. Mais si une chose a réellement de la valeur pour nous, nous allons l'exprimer par nos actions et par nos attitudes. Il y a des choses qui ont une valeur pour nous, mais pas pour d'autres. L'électricité, pour moi, ça a un peu de valeur, mais pour ma femme, ça en a beaucoup moins. Moi, je peux baisser le chauffage, mais elle va l'augmenter. Parce qu'on n'a pas le même rapport avec l'électricité. On a acheté une maison avec ma femme et on m'a demandé si j'étais excité de devenir propriétaire. Et en fait, bon, j'ai presque rien ressenti. Un jour, j'ai acheté une montre d'une grande valeur pour honorer mon père. Je voulais l'honorer et vraiment, je savais qu'il voulait une montre de cette marque-là. Alors, j'ai fait 2 heures de route et là, je suis arrivé chez un homme et en fait, j'ai réalisé qu'il avait une soif. Lui et son épouse, ils avaient soif de Dieu. Alors j'ai commencé à leur annoncer l'évangile. J'étais tellement béni, j'ai prié pour eux, je leur ai offert un livre que j'avais avec moi dans ma voiture. Et finalement, j'ai donné l'argent et je leur disais au revoir dans ma voiture. Et là, finalement, il est revenu en courant parce que j'avais oublié la montre. C'est la valeur que tu as pour une chose, c'est là-dedans que tu vas mettre ton intérêt. Cette montre n'avait pas de valeur pour moi, mais par contre, le salut de ces gens, d'avoir été une source de bénédiction, ça c'est ce qui me réjouissait. Les choses de ce monde peuvent avoir une valeur pour beaucoup, mais pour les enfants de Dieu, ça n'a pas la même valeur. J'ai acheté tout dernièrement une voiture et je me suis retrouvé dans un bureau parce qu'on devait régler des choses techniques. Et en entrant dans le bureau, j'ai vu cette femme et il y a un verset qui est venu en moi. Je lui donnerai un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et la voiture, mais je m'en fichais complètement. Tout ce qui m'apportait maintenant, c'était d'apporter cette parole à cette personne. parce que tu mettras de l'importance à ce que tu trouves important. En fait, on exprime naturellement ce qui a de la valeur pour nous par nos actions et par nos attitudes face à cette chose ou face à cette personne. Donc, nous donnons du temps à ce qui nous semble être important. Et on va s'offrir, on va se donner à ces choses ou à cette personne. Et si ce n'est pas naturel, ça va le devenir. Donc, une chose qu'on doit faire aussi, c'est de protéger, et je vais terminer là-dessus, de protéger cette chose ou cette personne. On raconte l'histoire d'un homme, il s'était acheté des verres en cristaux, du cristal, de grande valeur, et ils avaient mis dans un carton bien protégé à l'arrière de sa voiture. Et là, il a attaché ce carton, c'était bien protégé et tout ça. Et il conduisait et tout d'un coup, il a eu un accident terrible. Et il s'en est sorti indemne. Et il a regardé derrière lui le carton et le carton était sain et sauf. Le problème, c'est qu'il n'avait pas attaché son bébé derrière et son bébé avait été projeté. Et il est mort. Pourquoi ? Bon, il arrive des accidents comme ça, bêtes. Mais d'une manière générale, si tu accordes de l'importance à quelque chose, tu vas protéger cette chose. Protéger. La Bible dit « Protège ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Protège ta femme plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viendra la promesse. C'est d'elle et c'est avec elle que tu seras béni. C'est avec cette personne que tu seras une bénédiction. » Une chose qu'on voit souvent, parce qu'on reste longtemps avec les gens, c'est la familiarité. Lorsqu'on devient familier avec les choses. Pour quelqu'un qui est riche, aller dans un restaurant chic, un restaurant 5 étoiles, ça n'a pas une grande valeur pour eux. Mais pour quelqu'un de pauvre, ça a certainement une valeur beaucoup plus grande. Mais le riche, il est devenu familier avec ces choses-là. Et un danger dans le couple, c'est de devenir familier avec la personne que Dieu a mise à nos côtés, avec la personne avec laquelle nous vivons. Si nous devenons familiers avec ces choses, nous allons mépriser ces choses. Quand j'étais en France, mon insecte préféré, c'était la coccinelle. J'aimais tellement ça. Je dis jamais parce que ce n'est plus le cas. Parce qu'arrivé au Québec, les coccinelles ont envahi ma maison, surtout en ce moment. Et je regarde ces coccinelles, et avant, je les aimais tellement, mais maintenant, j'ai juste envie de leur dire, mais je vais vous détruire. Parce qu'elles n'ont plus la même valeur pour moi. Parce que je suis devenu familier avec elles. L'eau potable. On remplit nos piscines d'eau, de 50 000 litres d'eau potable. On peut boire et ne pas tomber malade. Alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas un verre d'eau. L'eau n'a pas la même valeur pour nous. Je vais maintenant appeler mon épouse qui va nous parler de la façon aussi, d'une des façons dont on peut honorer son mari ou sa femme. On a parlé de reconnaître la valeur de son conjoint, de sa femme. On a parlé de l'accepter. On a parlé d'accepter aussi sa propre valeur. On a parlé de révéler à l'autre quelle était sa valeur et aussi d'exprimer par nos attitudes quelle est cette valeur. Soyez bénis, vous l'êtes en Jésus. Oui, elle est là. Denisa est contente, merci Denisa.
Bravo Annabelle, bravo.
Donc si j'ai bien compris, tu as décelé en moi la valeur de la truffe que j'étais.
Oui,
c'est
vraiment,
ça.
J'ai trouvé, parmi tous les champignons que j'ai vus, tu étais vraiment le champignon le plus extraordinaire.
Merci. Mais si moi je suis la truffe, devine qui t'es. Hein.
Elle est tellement bonne. Elle me bat tout le temps. Elle est drôle, mais pas moi.
Donc, sur ce... Mais très sérieusement, ceci dit, il a vraiment fait ce travail du cochon et de la truffe. Mais n'allez pas trop loin dans vos pensées, là. Mais parce que, quand il l'a dit tout à l'heure, d'exprimer, de révéler la valeur à sa femme, honnêtement, aujourd'hui, j'aurais jamais pu imaginer ni avoir la force de pouvoir le faire, d'être ici. Parce que quand il m'en a parlé il y a 7 ans, c'était complètement fou pour moi. Eden était petit, j'étais dans les couches, j'étais sûrement en pyjama, j'avais sûrement les cheveux gras ce jour-là. Je suis oui, c'est ça, un jour. Mais aujourd'hui, je suis là et je me tiens devant vous et c'est grâce à Dieu, c'est certain. Mais Dieu a aussi utilisé Jérémy. Donc, je vous le dis à vous tous pour de vrai, il l'a fait. Et tout le monde le remercie, n'est-ce pas? Donc, il a parlé de la valeur du conjoint. Et c'est une base, une fondation dans le couple. C'est vraiment quelque chose de très important à saisir, parce que c'est là qu'on va pouvoir se construire, qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir construire une relation basée sur le Seigneur ensemble en couple. Et il y a plusieurs moyens d'honorer son conjoint une fois qu'on est dans cette relation d'amour avec son conjoint. Il y a plusieurs façons de pouvoir honorer son conjoint. Et la Bible nous dit au Proverbe 3:27, ne refuse pas un bienfait à celui qui a le droit, car tu as le pouvoir de lui accorder. Et ça s'applique à nous dans le couple. Ne refuse aucun bienfait à ton mari, à ta femme, quand tu as le pouvoir, quand tu as cette puissance en toi de pouvoir lui accorder. Et qu'est-ce qu'on peut accorder comme bienfait dans le mariage? On peut accorder des bienfaits au niveau de nos paroles, avoir des paroles qui sont des paroles d'élévation, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, des paroles d'encouragement, des paroles de consolation. On peut aussi apporter un bienfait au niveau de nos comportements, de nos attitudes, parce que la Bible dit qu'une femme sage, c'est la couronne de son mari. Mais aussi, il y a un autre honneur dans le mariage dont la Bible nous parle. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ce qui nous montre qu'autant un mariage peut être déshonoré par une mauvaise sexualité, autant un mariage peut être honoré par une sexualité épanouie. Donc oui, ce matin, nous allons parler de sexualité. C'est la cerise sur le gâteau, le glaçage du gâteau. Mais sans le gâteau, il n'y a pas de glaçage. Et puis, un glaçage tout seul, c'est pas terrible non plus. Donc ça va ensemble, c'est complémentaire. Donc une fois que vous avez construit, parce que je voudrais juste commencer par là, la sexualité c'est important dans le couple, ça fait partie du couple et ça fait partie du message du couple. Et c'est quelque chose que Dieu a créé. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'était sûrement quelque chose de très important, je vais vous en parler tout à l'heure. On va aller dans 1 Corinthiens 7, 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, par votre manque de maîtrise. Donc la première chose à savoir, ça c'est le plan parfait de Dieu concernant la sexualité, c'est que on puisse avoir cette conscience que une fois qu'on est marié, que notre corps ne nous appartient plus, qu'on s'offre à l'autre et qu'on ne se prive pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière. Ça c'est le plan parfait de Dieu, et si tous les couples fonctionnaient de cette manière parfaite, il y aurait pas de problème. Mais la chose, c'est que beaucoup de couples rencontrent des problèmes au niveau de leur vie sexuelle parce que le modèle divin est là, mais comment l'appliquer? Comment y arriver? Alors d'abord, on va définir c'est quoi la sexualité. Parce que la sexualité, on en parle partout, dans tous les magazines, dans tous les films, partout, on parle de la sexualité. Mais qu'est-ce que la sexualité comme Dieu la voit, comme Dieu l'a créée? La sexualité, c'est la manifestation de l'amour entre deux personnes de sexe différent dans le cadre du mariage. Donc ça, c'est ça la sexualité. Une sexualité, selon Dieu, c'est une manifestation de l'amour entre deux personnes de sexe différent dans le cadre du mariage. C'est quand même assez ciblé. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas marié, si vous êtes du même sexe, la sexualité, c'est pas fait pour vous. C'est pas possible d'y entrer. Ça marche pas. C'est pas dans les conditions de Dieu. Et là, les célibataires se disent, c'est plate, c'est poche. Non, parce que Dieu a un message aussi pour vous. Dieu a prévu un message pour les célibataires, pour les gens qui sont seuls. Et la Bible nous dit, parce que oui, c'est réservé au mariage. Ça vient avec le mariage. Vous vous dites, finalement, il n'y a que des gens mariés, ils ont le droit à un bonus. Non, ça fait juste quand on vit à deux, la sexualité a sa place. Mais quand on vit tout seul, la sexualité n'a pas sa place, on n'en a pas l'utilité. C'est si, par exemple, Un exemple, vite. Si j'ai pas de chat, ça sert à rien que je m'achète une litière à chat, parce que j'ai pas de chat. Donc si t'as pas de mari, si t'as pas de femme, t'as pas besoin de sexualité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais quand même, parce que dans la pratique, c'est peut-être pas aussi simple. Et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est dans le mariage, parce que là, les gens disent aujourd'hui, on n'est pas à peine d'attendre d'être mariés, etc. Parce que la Bible nous dit, si on continue un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 7, 9, « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Donc, ce qui veut bien dire que tu peux que c'est dans le mariage que tu vas pouvoir libérer ton énergie, que tu vas pouvoir t'exprimer, et que en dehors du mariage, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre alternative. Dieu n'a pas dit, bon, sinon fais ci, fais ça. C'est comme si vraiment tu veux te marier parce que tu sais que tu n'as pas cette capacité de pouvoir rester seule, marie-toi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que tu as des désirs sexuels que la première femme que tu vois, femme, on se marie parce que je brûle. Ça se passe pas comme ça. Ça veut dire que si tu connais quelqu'un avec qui tu pourrais te marier et que tu te dis finalement le mieux ce serait sûrement que je reste seule, mais je sens que j'ai pas cette capacité en moi, je sens que c'est une occasion de chute, tu vas pouvoir te marier avec la personne que Dieu va approuver. Mais c'est pas une personne comme ça que tu choisis dans la rue parce que tu brûles et que tu prends n'importe qui. C'est pas barbare comme ça, c'est pas sauvage comme ça. La sexualité n'a rien de sauvage. Donc, et encore une fois, je continue pour les gens qui sont tout seuls, la Bible a des promesses pour vous. La Bible nous dit de livrer nos membres à la justice, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Vous semez ce sacrifice que vous faites aujourd'hui, vous le semez. Honnêtement, je suis sûre que vous aurez une récompense pour ça, de vous être abstenu, d'avoir décidé parce que vous n'étiez pas marié pour X raisons, parce que peut-être que vous êtes divorcé, peut-être que vous êtes veuve, peut-être juste vous êtes célibataire et que vous avez décidé de rester pur jusqu'à votre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Je suis certain que vous aurez une récompense par rapport à ça parce que vous aurez fait le choix de Dieu, parce que à cause de votre crainte de Dieu, vous aurez décidé de vous garder, de ne pas succomber à aucune tentation à droite, à gauche, une fois. Non, vous dites, non, je suis seule. Comme j'ai dit, j'ai pas de chat, j'achète pas de litière, je suis seule, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme. Pas de sexualité. Et vous marchez dans votre autorité en Christ et vous déclarez la parole. Vous dites non, le péché n'a aucune puissance sur moi et je livre mon corps pour la justice et j'offre mon corps comme un sacrifice vivant, Seigneur. C'est pour toi, ce corps-là est pour toi, pour faire ta volonté. Je vais aller là où tu veux aller. Je vais utiliser mes mains pour guérir les malades. Je vais utiliser mes jambes pour aller évangéliser. Et vous vous offrez totalement et complètement à Dieu. Donc ça, c'était un message d'encouragement pour les personnes qui sont seules, mais vous pouvez quand même écouter la suite. C'est que, donc, la sexualité a une place dans le mariage à ne pas négliger. On ne peut pas passer à côté du message général du couple sans passer sur le sujet de la sexualité. Il y a énormément de choses à dire sur le couple. On pourrait en parler pendant des heures. On pourrait parler justement des paroles. On pourrait parler des actions, la fidélité, du pardon, la confiance. Il y a plein de sujets. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le message que Dieu voulait vous adresser par rapport au couple. C'était honorer son conjoint dans le mariage au travers d'une sexualité épanouie. Et la première des choses que je voudrais aborder, c'est que un mariage sans sexualité, c'est un mariage qui ouvre une porte au diable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, parce qu'il dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Et un mariage où les deux sont en bonne santé, où il n'y a pas d'incompatibilité physique et qui n'expérimente aucune vie sexuelle, aucun épanouissement dans sa sexualité, c'est un mariage qui se met en danger, un mariage qui ouvre une porte à l'ennemi pour différentes choses.
une des choses, les premières choses auxquelles on pourrait penser, ça va être l'adultère, par exemple. Et c'est vrai, c'est pas un mythe. Et je me souviens, une fois, on était allé avec Jérémy dans un, c'était quoi, un repas de la Saint-Valentin, truc qu'on fait jamais. Mais là, on était allé, c'était quoi? Hein? Ah ouais, on avait été invité par un pasteur qui faisait un repas pour la Saint-Valentin. Et puis, c'était vraiment drôle. C'était pas censé être une soirée drôle, mais c'était quand même une soirée drôle, finalement. Et il fallait dire des choses positives à ton conjoint, écrire des listes. Et si vous nous connaissez, Jérémy et moi, on est tellement comme ça. Donc, c'est devenu une soirée drôle. Mais là, le pasteur, il prend la parole d'un seul coup. Et puis, il était complètement aigri de la vie, complètement aigri du mariage. Et puis, il se met à parler. Il dit, voilà, la femme, là, faut pas qu'elle soit étonnée si son mari va voir ailleurs quand elle refuse tout le temps. Oh, là, tu sentais toute la frustration contenue dans cette seule parole. Et il l'a exprimé comme ça. Alors, je veux pas savoir si c'était parler de lui ou de quelqu'un d'autre, mais peu importe. Mais vous voyez toute cette frustration, cette colère qu'il avait contre les femmes, c'était assez exceptionnel. Mais dans le fond, il y a une vérité, c'est que si un homme rencontre constamment un refus de la part de sa femme, ça va créer en lui des frustrations et ça peut se manifester après par plusieurs façons. Ça peut être, oui, ça peut être l'adultère, ça peut être de la pornographie, ça peut être aussi une indifférence, ça peut être des éloignements, ça peut être des pressions, ça peut être des disputes constantes. Ça crée un tas de mauvaises conséquences dans le couple. Et une sexualité épanouie va créer des bonnes conséquences, va créer des bonnes choses, puisque, comme on l'a vu, la sexualité a été créée par Dieu. Elle a été créée comme quelque chose de beau, comme quelque chose de pur. C'est quelque chose que Dieu a donné à Adam et Ève, oui, pour se reproduire, mais si ça avait été juste pour se reproduire, je pense pas que ça aurait été aussi intime déjà. Et puis c'est que on n'aurait eu aucune sensation, aucune émotion, ça aurait rien fait, ça aurait juste été un hey. Et puis allez, on fait un bébé, et puis voilà, c'est fini. Comme ça, c'est une question de formalité. Non, Dieu a créé quelque chose de beaucoup plus intime. Dieu a créé une intimité dans le couple que tu peux avoir avec personne d'autre, que tu peux avoir, que tu ne dois pas avoir avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et tu te dis, Dieu n'a pas créé juste pour la reproduction, parce que déjà on se reproduirait beaucoup, mais je viens de le dire, hein. Mince. C'est que c'était pas juste pour la reproduction. Il a allié comme l'utile à l'agréable. C'est comme si tu t'achètes quelque chose, t'as besoin de t'habiller, par exemple, t'es pas obligé de t'acheter des vêtements moches. Le bonus dans l'histoire, c'est que tu peux t'acheter des vêtements qui vont te plaire, des vêtements qui vont te faire plaisir. Si tu t'achètes un qu'est-ce qu'on peut s'acheter dans la vie? Un chat? Non. Qui veut s'acheter un chat? Si tu veux t'acheter une voiture, dans l'idéal, la première chose, c'est que tu veux une voiture qui va te conduire. Mais si en plus la voiture, elle peut être belle et puis qu'elle peut répondre à tous tes besoins, que tu sais, c'est ta couleur comme t'aimes, etc., c'est encore mieux, non? Voilà. Bon, voilà. C'est que Dieu s'est pas arrêté juste à l'étape du utile. Il a rendu l'utile à l'agréable dans le sein du couple. Et quand les personnes se privent l'un de l'autre, ils vont contre la volonté de Dieu, contre la manière dont Dieu nous a créés, la manière dont le couple est fait pour fonctionner d'une façon harmonieuse, d'une façon épanouie. Et oui, ça ouvre des portes quand il y a un des conjoints qui est en famine sexuelle, il va être affamé. Et des gens affamés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher de la nourriture n'importe où. Dès qu'ils vont voir quelque chose, que ce soit bon, que ce soit pas bon, que ce soit comestible, que ce soit pas comestible, ils vont avoir une tentation pour le manger. Mais quelqu'un qui a tout le temps quelque chose de bon à manger chez lui va jamais avoir envie de manger un bout de gâteau qui est par terre à moitié écrasé, que tout le monde a marché dessus. T'as pas envie de manger ça parce que t'as mangé à ta faim, t'es rempli, t'as pas faim, ça te donne pas envie, ça, c'est même dégoûtant en fait arrête de faire ça. Mais une autre personne à côté de toi qui n'a pas mangé depuis une semaine, qui n'a rien du tout, qui a le ventre creux, qui ne s'est rien mis sous la dent, il voit, il dit, c'est de la nourriture, ça va me nourrir, j'en ai besoin. Et là, il s'en fiche que tout le monde a marché dessus, il s'en fiche que c'est sale, il s'en fiche de tout ça, il va le manger. Et c'est pas bon, c'est de la mauvaise qualité. C'est quelque chose qui va être mauvais pour lui. Il va avoir une sensation d'avoir été nourri, mais au final, c'est mauvais pour son corps. Il va peut-être être malade, il va mourir, ou il va être, enfin bref, un tas de choses. Oui, c'est toujours dramatique. Et dans le cadre du couple, quand un conjoint est dans une famine sexuelle, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais eh ben il peut avoir ses tentations. Il va voir, parce que je suis une fille, donc je vais parler comme pour les hommes, mais il va voir un homme, une femme, et puis. Waouh, dès qu'il va avoir une fille, oh, ça va être tous les signaux d'alarme sont en alarme. Alors que bon, sérieusement, mais il y a des gens, ils sont vraiment, vous rendez compte, ils sont super extrêmes. Mais c'est pas par un souci de vraiment de rester dans la sainteté, c'est pas parce qu'ils veulent honorer Dieu, c'est parce que tout est une occasion de chute pour eux. La moindre chose, t'as un petit bout de peau qui dépasse. Oh, faut pas montrer ça aux frères, hein. Alors là, il faut faire, mesdames, soyez des femmes sages. La femme sage construit sa maison, la femme sage construit son foyer. La sexualité est quelque chose pour les deux. Et une femme, et je dis ça parce que souvent c'est comme ça que ça se passe pour généraliser. C'est comme ça que ça. On entend souvent, c'est que les femmes ont moins de désirs sexuels que les hommes et que les hommes vont être plus frustrés. Alors après, on peut trouver une harmonie. C'est pas non plus question de quelle fois t'entends des choses. Bah en tout cas, moi ça me choque de dire au couple, mais tu peux avoir une sexualité comme tu veux, quand tu veux, etc. Parce que là, on permet aux gens d'avoir aucune maîtrise d'eux-mêmes. Quand t'es au travail et que tu peux pas t'empêcher d'appeler ta femme ou de rentrer chez toi ou je sais pas quoi, et genre 3 fois par jour, bah c'est que t'as un problème. Honnêtement, si t'es pas capable de passer ta journée au travail sans aller voir ta femme et avoir un petit moment avec elle tous les jours de ta vie, c'est peut-être que t'as des besoins qui sont un petit peu trop grands, hein, et que là tu devrais demander à Dieu de faire quelque chose, et puis ta femme, bah ça peut peut-être la déranger. Mais sans aller là, ce que je vous dis, c'est pas pour des gens qui sont extrêmes, d'accord. Je veux pas créer un truc trop bizarre là, que demain vous appelez tous vos femmes. Bah là, t'as pas entendu hier, parce que quand t'as besoin de faire ça, c'est pas bon signe, tu vois. Déjà, c'est que t'es pas allé jusqu'au bout du message. Donc, tout ça pour en revenir au fait que oui, femmes, soyez sages, construisez vos foyers, et puis. Nourrissez vos hommes, nourrissez-les dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de leur vie, que ce soit à table, mais que ce soit aussi dans la sexualité. Un homme qui n'est pas comblé dans ses besoins sexuels va avoir une tentation, et même si c'est pas un homme méchant, d'accord, c'est pas forcément que c'est un méchant bonhomme tout pervers, etc. C'est juste qu'il peut avoir des plus de tentations, et c'est dangereux de le mettre dans une situation comme ça, et on ne veut pas laisser d'accès au diable. On veut faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Dieu nous appelle à honorer notre mari dans le mariage au travers de la sexualité. Et je vous dis, il y aurait tellement de choses à dire, et puis toutes les sources, etc. Pourquoi ça peut pas fonctionner? Enfin, il y aurait tellement de choses à dire. Donc là, aujourd'hui, on va juste en dire quelques-unes. Mais c'est quelque chose, une chose là, dont on va parler. Saisissez-vous-en. Et puis, méditez sur ça. Comment les appliquer pour ma vie? Comment ça peut changer dans ma vie? Parce qu'on va pas pouvoir parler de tout, mais prenez ce dont vous avez besoin ce matin. Et la deuxième chose, c'est que la sexualité, c'est pas juste, on en parlera aussi un peu plus tard, c'est pas juste un acte sexuel, c'est pas juste une histoire physique, ça va être beaucoup plus. Et ça va commencer, il y a quelqu'un qui a dit « l'amour commence dans la cuisine ». Quelle citation! Et en un sens, c'est vrai, c'est que c'est pas juste le moment M là, à ce moment-là, c'est que si un mari, mettons, tu rentres chez toi et puis tu parles mal à ta femme, tu lui dis « Ah, ton repas il est dégueu ce soir, puis t'as vu comment t'es habillée, oh là là, oh la maison est sale !» Et là, t'espères qu'en te couchant, « Hey, chérie, qu'il va se passer quelque chose, honnêtement, t'es un homme de foi, vraiment !» autant les femmes... C'est bizarre, ces femmes qui applaudissent. Donc apparemment, beaucoup d'hommes font ça. Arrêtez, d'accord? C'est pas bien, c'est pas bon, ça. Je vous donne des bons conseils hein, ce matin, donc... Prenez des notes discrètement si vous avez besoin ou activez votre mémoire là parce que va falloir appliquer ces petits conseils là. On ne dit pas ça et puis on n'espère pas qu'après un miracle se passe. C'est très rare que ça puisse arriver. Donc les femmes ont leur rôle à jouer, mais vous les maris aussi vous avez un rôle à jouer. Il faut être sage des deux côtés à la fois. Si, comme Jérémy l'a dit, quand tu valorises ta femme, quand tu prends bien soin d'elle, que tu remarques ce qu'elle a fait, que tu vois autre chose d'elle que juste un tas de chair, ça va la valoriser, elle va se sentir importante et puis elle va avoir envie de s'offrir à toi. Sinon, si juste tu lui parles mal, tu fais pas attention à elle et puis le soir tu veux qu'elle te fasse un petit câlin, là elle va se sentir comme utilisée, elle va se sentir comme un objet sexuel. Et c'est pas la manière dont Dieu voit la sexualité. La sexualité c'est l'un et l'autre qui s'offrent à l'autre. La sexualité c'est pas un buffet, on n'est pas chez Wantang là où tu vas te servir à manger, d'accord, et tu prends ce qu'il te veut, ce que tu veux. Non, la sexualité on s'offre à l'autre. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc tu vas pas chercher moi ce que je veux quand je veux où je veux et ça là là, c'est toi qu'est-ce qui va te faire plaisir? Bah peut-être que ta femme ce qui lui ferait plaisir c'est juste que tu puisses je sais pas lui masser les pieds parce qu'elle est très fatiguée le soir, puis ça va la détendre et puis après bah écoute elle va être beaucoup plus ouverte à une soirée, tandis que si t'es là, allez, dépêche-toi, je sais pas quoi, bref, et que t'es là en train encore de la dépêcher, et puis lui montrer que non seulement son repas était pas bon, sa tenue était moche, les enfants étaient pas sages, et la maison était sale, et qu'en plus, elle subit un échec encore, un échec supplémentaire dans sa journée, c'est qu'elle se refuse à son mari et qu'elle désobéit à la parole. Bah là, ta femme, elle se sent vraiment comme la plus nulle des nulles, d'accord? Tout est moche, elle est moche, la maison est moche, ses enfants sont méchants et en plus, elle ne sait pas s'occuper de son mari. Là, ta femme, elle ne se sent pas valorisée et elle a pas forcément envie de répondre à tes besoins, pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que là, c'est décourageant. Donc, encouragez vos femmes, ayez une vision plus loin que la sexualité. La sexualité, comme j'ai dit, c'est pas le pilier là, du mariage. C'est pas sur ça que vous allez pouvoir construire votre mariage. Mais ça fait partie du mariage. C'est le glaçage, c'est la cerise, c'est le bonus du mariage. Mais c'est pas un pilier en tant que tel dans le mariage. Parce que un mariage qui fonctionnerait que sur la sexualité, c'est dangereux. Parce que imaginez, et c'est pas du tout dans la volonté de Dieu, d'accord, mais qu'il y en ait un des deux qui a un accident, et puis là vous pouvez plus avoir de vie sexuelle comme avant. Qu'est-ce que vous allez faire si votre mariage était fondé exclusivement sur ça? Si d'un seul coup tu dois faire un déplacement, comment est-ce que tu vas faire? Si d'un seul coup, si d'un seul coup ça fonctionne plus, c'est plus possible, comment tu vas faire puisque ton mariage était fondé sur ça? Et c'est pour ça que la seule fondation que nous pouvons avoir, c'est une fondation en Dieu, sur Dieu, parce que c'est le seul qui ne changera jamais, le seul qui reste le même aujourd'hui, demain, éternellement. Donc, si tu fondes même ton foyer sur le bon caractère de ton mari, sur la gentillesse et la patience de ta femme, ça, il y a des femmes à la ménopause, elles deviennent des grosses furies. Elles étaient toutes gentilles, mais d'un seul coup, tu sais pas ce qui se passe à 50 ans, là, on fait plus à manger, on claque la porte du frigo, le repas est plus prêt, il y a une petite note, débrouille-toi, mets ça au micro-ondes. Attention! Les femmes à la ménopause, c'est pas rigolo. Puis il y a des hommes, et ils sont... Et je vous dis, là, c'est pas des choses que Dieu veut, mais c'est des choses auxquelles les couples font face. Et puis, il faut s'équiper avant, il faut construire son mariage avant, justement, pour pouvoir... Parce qu'il peut y avoir des tempêtes dans le couple. Des hommes qui, à 40 ans, et je ne crois pas dans la crise, ni dans la crise d'adolescence, ni dans la crise de la quarantaine, mais il y a des gens qui passent par là. Et puis, un homme, d'un seul coup, écoute, il commence à se faire des teintures. Bah, tous les hommes qui sont des teintures font pas des crises, hein, mais... Ils sont peut-être coiffeurs, c'est tout. Ça se peut, et puis, tu sais, ses hobbies changent d'un seul coup, il veut écouter de la musique plus cool, d'un seul coup, il veut plus aller s'habiller au château, il décide d'aller chez Urban Planet. Bon, bref, ça peut changer. Et là, qu'est-ce qui va rester de ta relation avec ta femme ou ton mari s'il y a des choses qui changent? Si ton couple est fondé sur les enfants, qu'est-ce qui se passe quand les enfants partent? Vous retrouvez là comme deux vieux, rien à voir à vous dire? Ben, les enfants sont partis, on ne parlera pas des enfants, on ne parlera pas de l'école, on n'a rien à se dire. Non, le couple doit être fondé absolument et 100% sur Dieu. Et de là vont découler tout ce dont vous avez besoin dans tous les domaines de votre vie. Toute la grâce dont vous avez besoin, toute la puissance, tout le pardon, tout ce dont vous avez besoin va découler de là et selon les saisons de notre vie, selon là où on en est. Voilà. Et un manque aussi de... je veux juste terminer ça, les encouragements, c'est qu'aussi un conjoint qui ne reçoit jamais d'encouragement, qui ne reçoit jamais de compliments de son mari ou de sa femme, ben c'est... Ça peut l'attrister, ou même quelquefois il y en a, ils s'en rendent pas compte. Mais d'un seul coup, tu sors, et puis ta femme, elle va au travail, puis son collègue, il lui dit « Hey, t'es allée chez le coiffeur, c'est beau tes cheveux !»« Ouais, merci !» Ben, mon mari s'en est même pas rendu compte. Et puis là, le lendemain, il lui dit « Hey, tu t'as acheté une nouvelle jupe, ça te va bien, t'es belle, t'as de belles jambes !» Bon là, si un collègue vous dit ça, prenez vos distances hein, quand même avec lui. Mais là, la femme, elle va commencer à se sentir « Oh, wow ! Il y a quelqu'un qui remarque que je suis jolie, il y a quelqu'un qui remarque que j'ai changé mes cheveux, que j'ai acheté une nouvelle jupe, ça me fait plaisir !» Et puis d'un seul coup, elle va commencer à s'accoutumer à ses compliments et elle va commencer à trouver sa valeur avec cette personne. Et puis si cette personne est mal intentionnée, eh ben cette personne va pouvoir commencer à séduire ta femme parce qu'il investit là où toi, tu n'as pas investi. Il peut jeter des semences parce que toi, tu n'as rien fait et que c'est un terrain qui est complètement vierge. Tu ne dis jamais un seul compliment à ta femme. Eh, c'est qu'elle est belle. Si elle n'avait pas été belle, je ne l'aurais pas épousée. Ben, peut-être que 20 ans plus tard, elle a besoin encore de le savoir. Elle a besoin de l'entendre de ta propre bouche. Tu es belle. Et quand, si elle ne l'entend pas de ta bouche et qu'elle l'entend de la bouche de quelqu'un d'autre, ça va peut-être lui provoquer beaucoup d'émotions. Ça va peut-être la pousser à se nourrir de ses compliments, puis à vouloir plaire à quelqu'un d'autre qu'à toi. Parce que toi, tu remarques rien de toute manière. Si t'es rasé la tête l'année dernière, t'as pas remarqué. D'accord? Elle est venue, elle se déguise avec un sac à patates, tu remarques rien non plus. Non, bon. Et puis lui, le collègue, oh, t'as des belles boucles d'oreilles, t'as une belle coiffure. Et là, qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Elle va commencer à vouloir lui plaire à lui et puis à développer une relation malsaine avec, même si ça va pas jusqu'à l'adultère, mais juste pour avoir ce sentiment, il y a quelqu'un qui m'apprécie, il y a quelqu'un qui voit ça en moi. Et ça devrait jamais être quelqu'un d'autre que ta femme ou ton mari. Et si régulièrement tu nourris ton mari ou ta femme avec des paroles sincères, d'accord ? Des paroles sincères, t'es pas obligé de mentir non plus. Si son chemisier tu le trouves très laid, ne dis pas que son chemisier est laid, dis-lui juste ton chemisier te va bien. C'est pas un mensonge. Travaillez là sur vos compliments. Si vous n'avez pas le compliment facile, ça vaut le coup d'y travailler parce qu'il y a des gens, ils vous font des compliments, mais en fait, c'est des compliments qui font mal, hein, d'accord? Ouh, c'est beau ta robe parce que dis donc, la semaine dernière, c'était moche, hein. Ça, c'est pas un compliment qui fait plaisir non plus. Donc, pensez, il y a des gens, ils ont besoin d'être volontaires là-dedans, de vraiment se dire, ce serait bien que je lui dise quelque chose de gentil parce que ça fait 20 ans que tu n'as rien dit de gentil, donc on comprend que c'est pas naturel. Donc là, ce soir, tu vas comme la regarder. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais honnêtement, t'as toujours quelque chose de bien à dire, t'as toujours une bonne chose à dire. Et puis il y a des gens, juste, ils y pensent jamais. Ils mangent un repas, ils le trouvent très bon, mais ils n'ont pas le besoin de te dire que c'est bon. Ils mangent et puis voilà, c'est fini. Puis il y a d'autres gens, ils mangent ton repas et puis ils ont le compliment facile. Oh, c'est vraiment bon, oh, c'est bon, puis ce petit goût. Et puis l'autre, il pense la même chose, c'est juste qu'il ne prend pas le temps de le formuler, que ça ne l'intéresse pas. Et puis... quelquefois, on entend souvent dans les mariages le mari qui parle pas, parce qu'en général c'est le mari qui parle pas, ça se peut, et le mari qui parle pas, qui n'exprime pas. Ça veut pas dire que t'es un cerveau vide, qu'il se passe rien là-dedans, que t'es complètement, il y a juste une petite mouche là. Non, sûrement tu penses des choses. Sûrement que tu penses des choses. Sûrement quand tu manges le bon rôti de ta femme, sûrement que t'as pensé quelque chose. au moins une petite pensée, une mini pensée. Bah là, tu vas te concentrer sur cette mini pensée qui te traverse l'esprit. T'es bon, hop, je vais le dire. C'est bon, tu vas voir, ta femme, elle va être contente, elle va te refaire un autre repas encore meilleur parce qu'elle va se sentir encouragée. Alors, c'est ça, c'est que si tu ne fais pas ce travail-là dans la vie de ton mari, de ta femme, c'est un danger. Et on va vouloir, ce vide va pouvoir être comblé par d'autres personnes. Et l'homme et la femme, dans le cadre du mariage, sont faits pour investir l'un et l'un dans l'autre, pour donner à l'autre et pour recevoir, du coup, aussi, parce que chacun donne. Et quand on regarde, si vous regardez des maisons qui sont laissées à l'abandon, des maisons où il ne se passe rien, rien de mal, mais rien de bien non plus. Il se passe rien, juste rien. Ça devient juste une ruine. Parce que tout commence, il y a la mauvaise herbe qui commence à prendre dans le jardin, et ça commence à s'effriter, tout commence à s'abîmer parce qu'il n'y a aucun entretien. Pourtant, il ne se passe rien de mal, mais c'est juste qu'il ne se passe rien. Et dans un couple, quand il ne se passe rien, il ne se passe pas vraiment rien. C'est juste que c'est tranquillement en train de se dégrader, que c'est tranquillement en train de tomber en ruine. Et puis tu vois, l'autre jour, je regardais, j'ai vu sur Internet un reportage photo sur Détroit. Détroit, des maisons, ils montraient il y a 30 ans. Et puis aujourd'hui, et c'est des maisons, des gens ont quitté, ont déserté. Et il ne se passe rien là-dedans. Mais les maisons sont dans un état pitoyable aujourd'hui. C'est des vraies ruines parce que personne ne s'en occupe. Et quand tu laisses ton conjoint comme ça, c'est comme une maison, une maison que tu laisses à l'abandon et qui tombe en ruine. C'est à toi de faire un entretien. C'est à toi de t'assurer que ça va bien. C'est à toi de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Quand ta maison, il y a quelque chose qui va pas bien, il y a une porte qui grince, c'est un peu énervant, c'est agaçant. Bah, plutôt que de passer ta vie à dire c'est agaçant cette porte, et bah, tu vas t'acheter un petit produit pour que la porte elle arrête de grincer, parce que c'est gênant. Si tu as une porte de placard qui s'ouvre pas, elle s'ouvre pas cette porte, c'est dommage. Maintenant tu vas essayer peut-être de la réparer. On fait souvent ça avec des crayons ou avec des choses, tu sais pas pourquoi, ça marche pas, ça reste chez toi. Mais des trucs vraiment majeurs, là. Enfin, majeur, une porte de placard, c'est peut-être pas si majeur que ça. Mais on va garder notre exemple. Et bah, là, tu vas la réparer. Et tu vois quelque chose chez ton conjoint qui te dérange. Bah, plutôt que de passer 20 ans à te dire, ça me dérange. Et bah, tu peux peut-être investir dans la vie de ton conjoint et puis commencer peut-être à lui dire autre chose que ça me dérange. Comment on peut faire? Comment est-ce qu'on peut régler ça? Et puis, il y a une prédicatrice qui disait que son mari faisait tout le temps quelque chose qu'elle détestait. Elle dit, mais bon, rendu au bout de 20 ans, quand ton mari continue de faire quelque chose que tu détestes, j'appelle plus ça un défaut, j'appelle quelque chose de mignon, parce qu'il ne va pas changer. Non, je trouvais que c'était pas mal, finalement. Quelquefois, il y a des choses, on est juste obligé d'apprendre à vivre avec. Et c'est pas si dramatique que ça. Il y a des petites choses, c'est pas dramatique. Si toi, t'as l'habitude de fermer la porte, qu'est-ce qu'on peut avoir l'habitude de faire? D'éteindre la lumière, par exemple. Si t'as l'habitude d'éteindre la lumière dès que tu sors d'une pièce et que ta femme a tendance à tout laisser allumer, c'est pas dramatique, hein. Je sens que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. voilà, vous voyez, il a appris à vivre avec parce que c'est fatigant de tout le temps de répéter Annabelle, les lumières, Annabelle, la lumière, Annabelle, là, là, là. Bon, du coup, ça met une mauvaise ambiance et puis, moi, ça me donne pas vraiment envie d'éteindre la lumière. En plus, t'as juste envie de les allumer encore plus fort et mettre le chauffage à fond dans toutes les pièces. Non, ça c'est de la rébellion, d'accord? C'est pas bien. Donc ne faites pas ça. Et donc aussi, un manque d'épanouissement dans la vie sexuelle, ça va apporter des disputes quelquefois. Tout le temps, c'est le moment fatidique. De toute manière, tu dis toujours non, oui, mais toi, de toute manière, ceci, cela, blablabla. Et puis finalement, ce qui était à l'origine, une bénédiction dans le couple, ça devient un sujet de dispute, ça devient même un sujet pour des couples de séparation, de divorce. On en arrive là tellement ça a dégénéré, tellement ça s'est répandu sur tout le couple, dans tous les domaines de leur vie. Le soir, tu te couches, t'es fâché. Le lendemain matin, t'es encore fâché parce que il est encore là et qu'il est toujours pareil. Et puis la journée se repasse pareil. Et puis le soir, ton mari ou ta femme dit hey, ce soir, ça va être le grand soir. Non, toujours pas le grand soir. Là, ça peut amener beaucoup de frustration. Puis une semaine, deux semaines, trois semaines, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ça peut créer beaucoup, beaucoup de tensions. Et c'est, y a des couples, ben ils supportent plus juste à cause de ça. Mais j'ai pas fait d'études scientifiques, mais c'est communément admis que quand des couples font l'amour, ils relâchent de la tension, il y a du stress en moins, que ça fait du bien aux deux, et puis qu'après ils sont beaucoup plus calmes. Et il y a des disputes, il y a des longues conversations, il y a des problèmes qui pourraient être réglés juste comme ça, parce que tout le monde pourrait être juste plus serein et un petit peu moins tendu. Et Dieu est intelligent, Dieu a vraiment pensé à tout. Mais encore une fois, là, si je vous dis ça et que vous rencontrez des problèmes dans votre couple, c'est chacun regarde pour soi. Je veux pas que vous entendiez ce message et puis que ce soir vous dites « Eh là, ma femme, toi le mari, blablabla ». C'est pas ça, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Moi, comment est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux changer l'atmosphère dans mon couple? C'est pas pour mettre de la pression sur l'autre. Parce que un des dangers, une des dérives, quasiment des pires qui peut arriver à cause de ça, c'est de mettre une pression sur l'autre, de mettre de la condamnation. Et là, quand on arrive dans ce domaine-là, finalement, on arrive dans le domaine de l'abus. Quand tu forces ta femme, parce que c'est ta femme et que la Bible dit que son corps ne lui appartient plus, à avoir un rapport sexuel avec toi, tu es en train d'abuser d'elle parce que c'est contre sa volonté. Oui, la parole le dit, mais si elle veut pas obéir à la parole, c'est son problème. Tu comprends? C'est son problème entre elle et Dieu. Et tu peux pas la forcer. Dieu n'a pas ce rapport-là avec nous. Il nous force même quand on se trompe. Ta femme peut se tromper en se refusant à toi. Elle peut mettre votre mariage en danger. Oui, elle peut faire une erreur. Mais toi, tu n'es pas un bourreau, tu n'es pas quelqu'un sans l'Esprit de Dieu qui est sans contrôle, sans maîtrise de lui-même pour forcer ta femme à avoir un rapport avec toi, parce que là, on tombe dans de l'abus. Et jamais tu vas construire ta femme, jamais tu vas développer une sexualité épanouie, tu vas juste assouvir un besoin physique. Et ta femme va juste se sentir abusée et humiliée, et elle aura vraiment pas envie de revivre ça. Ça n'a rien de la sexualité épanouie comme Dieu le veut. Ça n'a plus rien d'une manifestation de l'amour entre deux personnes. C'est juste une personne qui force l'autre. Et toi, tu peux te demander, est-ce que j'aime vraiment ma femme quand je fais ça? Parce que ça la blesse, parce que ça lui fait mal, parce qu'elle le veut même pas. Et même si, je vous le dis, même si elle a tort, même si ton mari a tort, tu ne peux pas le forcer. C'est mal. C'est contre la volonté de Dieu de faire ça. C'est Dieu qui va changer le cœur de ton conjoint. Et s'il le fait pas, Dieu va changer ton propre cœur à toi pour que tes désirs soient diminués, pour que tu puisses vivre cette vie sans chuter, que tu puisses vivre cette vie sans obliger ta femme ou ton mari à avoir des rapports avec toi. Parce que c'est mal, c'est de l'abus. Et l'abus, c'est mal, d'accord? Vraiment? Ça, c'est important. C'est parce qu'il y a beaucoup de couples qui vivent ça, et puis des femmes ne disent rien parce que la Bible dit, parce qu'elles sont sous la condamnation, et parce que souvent, quand on vit des situations d'abus, on ne dit rien, on peut se laisser dominer. Mais non, c'est mal. Donc, si vous le faites vraiment, repentez-vous, demandez pardon et mettez-vous devant Dieu et demandez à Dieu comment faire pour qu'on puisse changer, comment faire pour qu'on puisse découvrir cette sexualité comme toi, tu l'as prévu. Et le dernier point pour finir, c'est, on en a déjà plus ou moins parlé de tout ça, c'est de comment développer justement cette sexualité épanouie. C'est en ayant une relation humaine en dehors de la sexualité. Parce que la sexualité est juste pour le mariage. Et donc, ça veut dire que pendant tout le temps de tes fiançailles, normalement, tu as dû développer une relation qui ne comprenait aucune sexualité. Donc ça veut dire que tu as appris à connaître l'autre dans son caractère, dans ses attitudes, tu sais ce qui lui plaît, tu sais ce qui lui plaît pas, et tout ça en dehors de la sexualité. Parce que comme j'ai dit, une relation basée juste sur la sexualité, ça ne fonctionnera pas. Mais une relation, une sexualité épanouie va être épanouie parce qu'il y a une relation à la base, parce que vous êtes des amis, parce que vous êtes des complices, parce que vous vous aimez, parce que vous riez ensemble, parce que vous parlez ensemble, parce que vous faites confiance, parce que vous êtes là l'un pour l'autre, parce que vous êtes fidèles, parce que vous êtes assurés de l'amour de l'un et de l'autre, parce que tu sais que ton mari te trouve belle, parce que tu sais que ta femme te trouve beau, et tout ça c'est déjà acquis, tout ça ça a été construit et vous êtes toujours en train d'alimenter ça, mais les bases ont déjà été fondées. Et du coup ça veut dire que même si vous passez par une crise dans votre sexualité, vous allez pouvoir vous relever. Vous allez pouvoir passer au travers parce qu'il y a plus que la sexualité dans votre couple. Parce que le mariage, c'est plus que la sexualité. La sexualité fait partie du mariage, mais la sexualité n'est pas le mariage. Et le mariage n'est pas la sexualité non plus. Donc ça, c'est important. Construisez votre couple. Et si vous ne l'avez pas fait encore, si vous n'avez jamais pris le temps de le faire, apprenez à connaître votre femme, apprenez à connaître votre mari. Ayez ces temps de fréquentation où vous courtisez, où vous pouvez apprendre à vous reséduire, parce que peut-être que vous êtes rencontré quand vous avez 20 ans, c'était la seule fille de l'église, le seul gars de l'église, on s'est marié, on s'est pas posé de questions, on a fait des enfants, puis bah voilà, maintenant, bon. Mais non, Dieu a quelque chose de meilleur pour vous, même si vous êtes plus âgé, vous pouvez recommencer à courtiser votre femme, à l'inviter au restaurant, à avoir des petites attentions pour elle, parce que la flamme est là, il faut juste la raviver. Et là, vous allez pouvoir découvrir toute une nouvelle dimension dans votre couple. L'autre chose, oui, j'avais dit, c'est qu'on s'offre. La Bible dit que notre corps ne nous appartient plus et qu'on s'offre l'un à l'autre. Et ça, c'est capital. Quand tu t'offres l'un à l'autre en réalisant que c'est pas moi qui cherche mon intérêt, mais que je veux me donner à l'autre, là déjà tout est changé. C'est pas pour moi, mes besoins, mes ceci, mes pas besoins, etc. C'est non, je vais penser à l'autre, je vais me mettre à la place de l'autre, je vais commencer à me dire qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Est-ce que peut-être la manière dont je réponds, la manière dont je peux me refuser, est-ce que ça peut le blesser? Et là, tu peux commencer à penser différemment, puis à réaliser que t'es blessante, à réaliser que toi, t'es dure avec ta femme. Et petit à petit, vous allez commencer à vous rapprocher et ça va devenir naturel. Et un des derniers points, c'est aussi parce que, comme je l'ai dit, il y a des livres, il y a tout ça, etc. Et puis, il y a des bonnes choses. Mais chacun a une sexualité unique. Chacun va développer sa sexualité dans un couple. Chaque couple aura une sexualité particulière à eux, comme ils le veulent. Si pas parce que, je sais pas, il y a un site qui va dire il faut avoir des rapports, cinq fois dans la semaine. C'est ça pour que ça fonctionne bien. Si ton mari et toi, la femme, une fois par semaine, ça vous convient les deux, une fois par semaine. Mais si c'est trois fois par semaine, c'est trois fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas un modèle. Dieu n'a pas dit, c'est pas comme le calendrier des fêtes ou des sacrifices, etc. Il y a une bonne liberté là. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous calquer sur ce que la société dit, sur ce que votre copine dit, sur ce que votre mère vous a dit. Développez cette sexualité à votre image, selon vos goûts, selon qui vous êtes, sans vous mettre de pression de ce que la société dit, ce que la société ne dit pas. Chacun fait comme il veut, selon que ça reste droit devant Dieu, d'accord ? Par exemple, mais je le dis quand même, ça semble peut-être couler de source pour beaucoup de gens, mais par exemple, on ne fait pas de l'échangisme. Ça, c'est pas possible. On ne fait pas des choses à plusieurs. On ne s'inspire pas de films pornographiques ou de magazines érotiques, etc. Parce que ça, c'est des choses qui n'honorent pas Dieu, c'est des choses qui ne viennent pas de Dieu, c'est des choses qui déshonorent le mariage. Mais tant que ça reste droit et beau et pur devant Dieu et que ça honore ton mariage, fais ce que tu veux avec ta femme, avec ton mari. Et puis, apprenez à vous connaître, apprenez à apprécier tous les deux, à communiquer par rapport à ça, que ce ne soit plus un sujet tabou. Parce que c'est un sujet souvent qui est tabou, qui fait énormément de dégâts, parce qu'on se sent mal à l'aise d'en parler. Mais finalement, quelquefois, une petite discussion, ça pourrait juste tout régler. Ok, tu sais, moi, c'est parce que tu me dis ça tout le temps, puis alors là, après, oublie ça, c'est fini. Et puis là, tu peux savoir que peut-être ça fait 30 ans que tu fais ça, et que ça fait 30 ans que ta femme, elle est agacée par ce que tu fais. Bref. Tout ça pour dire que vous avez, que Dieu a une provision dans ce domaine-là pour vous chacun. Une provision unique, une provision particulière, une provision qui vous corresponde à vous. Et la dernière des choses, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que notre relation avant tout doit être basée sur Dieu. Et pourquoi on peut parler de la sexualité? Pourquoi on doit en parler? Pourquoi ça doit faire partie de même de vos discussions de couple, dans le sens si vous avez quelque chose à régler par rapport à ça? C'est parce que votre couple est basé sur Dieu et que la sexualité vient de Dieu. Donc ça n'a rien de sale, ça n'a rien de honteux, ça n'a rien de bizarre, ça fait partie du couple. Ça te rend malheureux dans ton couple parce que ça fonctionne pas. Et ben il faut trouver une solution parce que Dieu a prévu des projets de paix et de bonheur dans tous les domaines de ta vie. Et s'il y a un domaine qui te rend malheureux, il faut que tu puisses le traiter. Et Dieu a forcément une solution. Et la sexualité fait partie des projets de paix et de bonheur. Et juste une toute dernière chose, vers laquelle je veux finir, c'est que, comme j'ai dit, il y a des saisons. Il y a des saisons dans la vie. Et puis, il y a des moments, je parlais de la ménopause, la crise de la quarantaine, etc. Mais il y a aussi des grossesses. Les corps changent. Et puis après, les femmes peuvent être fatiguées. Et là, c'est un temps... Dieu sait que la femme va être fatiguée après une grossesse. Dieu sait qu'il s'est passé quelque chose d'assez chamboulant à l'intérieur de son corps. Et puis, un bébé qui sort, c'est quand même quelque chose, d'accord ? Un bébé qui sort, il se passe quelque chose. Et... Dieu a prévu tout ça et Dieu a donné la grâce à la femme de pouvoir sortir un bébé et Dieu a donné aussi la grâce au mari de pouvoir supporter ce temps où la femme va se remettre dans son corps. Et vraiment, je tiens à le dire parce qu'il y a fois on entend des choses par rapport aux grossesses, c'est un moment où ça commence à aller mal, etc. après les grossesses, parce que justement au niveau de la sexualité... Et on commence à rencontrer, il y a des couples qui rencontrent des problèmes, mais c'est une saison ça, d'accord ? C'est juste une saison. Donc voyez plus loin. Ma femme a besoin de se reposer, je vais la laisser se reposer. Puis vous, femme, ton corps a besoin de se reposer, mais tu peux quand même t'occuper de ton mari, tu peux quand même lui accorder une attention, peut-être une attention différente, mais tu peux lui accorder une attention. Donc je voulais juste... clarifier ce petit point-là. Et puis, donc voilà. Donc, soyez bénis. Et puis, j'espère que ce message vous a béni. Et voilà. À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec. Pour l'amour de la francophonie.